France Info.
Bonjour à tous. Dématérialisation, applications mobiles, crypto-monnaie, blockchain, la banque et l'assurance sont en train de vivre une vraie révolution technologique. On en parle dans ce dernier épisode du podcast Nouveau Monde spécial Vivatech 2019. Vous le savez, un podcast original, natif comme on dit, uniquement en numérique, proposé par France Info et par la direction du numérique en partenariat avec Les Échos, à l'occasion du salon Vivatech qui se tient, eh bien, en ce moment même, en fait, ça a démarré jeudi et ça se tient jusqu'à ce week-end à Paris. C'est l'occasion pour nous de plonger dans l'innovation technologique à la française. Alors, dans les précédents numéros, nous avons parlé green tech, mobility tech, food tech, med tech. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à ces technologies au service de la finance, les fintech.
Nouveau Monde, spécial Vivatech 2019. Présenté par Jérôme Colombin de France Info et Guillaume Brégeras du journal Les Échos.
Il est à mes côtés, Guillaume Brégeras, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Ça va bien ?
Très bien.
Dernier podcast consacré à l'innovation à la française. Alors, les fintechs, c'est un secteur très vaste, on va le voir, et c'est un secteur en plein boom.
C'est un secteur en plein boom, rien qu'en France, 72 startups ont levé 365 millions d'euros l'année dernière. C'est une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Et c'est dans un mouvement qui est même mondial. Vous avez en Chine et aux États-Unis d'énormes levées de fonds sur ce secteur.
Alors, nos invités, je vous les présente. Tout d'abord, une néobanque. Vous savez, c'est ces banques 100% dématérialisées, 100% en ligne, qui bousculent les codes, qui donnent un peu des sueurs froides aux banques traditionnelles. C'est la banque Nickel. Bonjour, Hugues Lebret.
Bonjour.
Nous expliquerez en détail tout à l'heure ce qu'est Nickel. À vos côtés, Maxime Perdu, vous êtes co-créateur de Jab, J2AB. Jab, c'est une petite innovation, comment je trouve super sympa, c'est un porte-clés lancé par la Poste, qui est en fait un moyen de paiement électronique pour les enfants. Éric Larchevêque également est avec nous, sera avec nous dans ce podcast. Alors Éric Larchevêque, c'est le CEO de Ledger, une start-up que l'on présente comme une future licorne. En tout cas, c'est une vraie pépite et qui a mis au point un coffre-fort pour crypto-monnaie. Enfin, notre quatrième invité, c'est Maëla Sourivong. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Laplace. Laplace, c'est un hub, c'est une zone de rencontre pour les acteurs de la fintech. Entre parenthèses, on est ravis d'avoir enfin une femme. On a eu un mal fou avec Guillaume en préparant ses émissions à trouver des femmes dans la tech. Il n'y en a vraiment pas assez. Hein.
Et pourtant, on a quelques-unes, hein, et notamment dans le secteur des finances.
Bon, bah, elles étaient occupées quand elles n'étaient pas disponibles pour venir à l'enregistrement de nos podcasts, en tout cas. Alors, Maëla Sourivong, qu'est-ce que c'est que Laplace, en fait?
Alors, Laplace, elle s'inscrit tout à fait dans le mouvement dont vous venez de parler, puisqu'on existe depuis un an, et l'objectif, c'est de permettre d'avoir un lieu de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation en banque, finance et assurance. On s'adresse vraiment à ces trois secteurs. Et on est au sein du Palais Brongniart, qui n'est pas un lieu neutre, ancienne bourse. Et autour de l'ancienne corbeille assez emblématique. Et ici, on permet donc à des acteurs comme des startups, mais aussi des banques, des assureurs, des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des étudiants aussi qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans les fonctions finances d'autres industries. Mmh. Qui s'intéressent elles aussi aux transformations que sont en train de traverser leur métier. À nous retrouver ici autour d'événements, autour d'un lieu qui est chaleureux, accueillant et dans lequel ils peuvent échanger, partager et on l'espère collaborer et créer encore plus d'innovation.
Le Palais Brongniart est chaleureux.
Le Palais Brongniart peut-être chaleureux.
C'est un lieu historique, certes.
Si, je vous invite à venir voir les espaces. On a fait de grands travaux de rénovation l'été dernier. Avec l'architecte Wilmotte et l'espace est vraiment convivial, moderne et chaleureux. Ouais.
Formidable. Alors, qu'est-ce qu'on entend selon vous par fintech? C'est un mot qui en réalité fédère des tas de choses différentes. Il y a beaucoup de choses, hein, en matière
d'innovation. Exactement. En fait, on parle de fintech Initialement, c'était les startups liées vraiment au paiement, au financement. Et en fait, on dit fintech aujourd'hui pour raccourcir, alors qu'on inclut les insurtech, donc les startups qui sont dans l'assurance, les regtech qui sont vraiment sur les sujets de régulation, de compliance. On parle aussi, et nous, en tous les cas, dans ce qu'on inclut à la place, on aura aussi la proptech, donc tout ce qui est lié à l'immobilier. La finance verte, la cybersécurité, il y a plein de D'accord. sujets qu'on englobe derrière le terme juste fintech.
Mmh. Et parmi ces startups, beaucoup disruptent leur secteur, voire changent beaucoup le fonctionnement des consommateurs. Comment ça se passe, les relations avec les acteurs plus établis, qui sont quand même assez de taille importante, notamment dans la banque et l'assurance ?
Alors, c'est assez différent, je dirais, entre la banque et l'assurance, parce que ces startups, elles sont arrivées d'abord dans le secteur bancaire. Et donc il y a eu un premier mouvement assez craintif, je dirais, de la part des banques. Aujourd'hui, elles ont compris que les startups n'étaient pas une menace et au contraire qu'il fallait travailler avec elles. Alors je veux pas raccourcir et dire que maintenant tout se passe très bien et très rapidement, mais en tous les cas, de plus en plus, hein, on a vu des actions et des collaborations qui se font entre les startups.
Voir des rachats aussi.
Voir des rachats. Mais beaucoup aussi travaillent en tant que partenaires, fournisseurs avec des banques qui ont très bonne intelligence. Et nous, on le voit quotidiennement à la place, puisqu'elles viennent se retrouver là et elles sont très demandeuses de part et d'autre de se rencontrer, de parler, d'échanger et d'apprendre l'une de l'autre aussi.
On va en parler dans un instant avec Nickel, la banque en ligne qui est l'exemple type d'un nouvel arrivant d'une start-up disruptive. Maëla Sourivong, est-ce que technologiquement, on peut dire que la vraie révolution en matière de fintech, c'est la blockchain ?
Je ne sais pas si je dirais ça aujourd'hui, surtout qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la blockchain. C'est sûr que c'est une technologie qui va transformer beaucoup de choses, pas que dans le secteur de la finance d'ailleurs, hein, parce que ça a été la première application via les crypto-monnaies et via le Bitcoin, mais ça va toucher beaucoup d'autres secteurs. Et oui, aujourd'hui, beaucoup de startups se lancent sur ces sujets-là. Et on avait justement, encore il y a quelques semaines, un événement lié à la blockchain et aux crypto-monnaies avec le fondateur d'un des plus gros fonds de crypto au monde, Mark Yusko, qui était à la place. Et le discours de beaucoup de startups qui sont dans la crypto ou dans la blockchain depuis longtemps est de dire aussi, attention, c'est pas parce que c'est le buzzword du moment qu'il faut que tout le monde se mette à faire de la blockchain.
C'est un sujet très techno, donc il faut quand même maîtriser certaines... c'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde, c'est pas utile dans tous les cas. Il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui sont déjà très intelligentes et très innovantes sans avoir besoin de blockchain. Donc il y a vraiment des cas d'usage très précis qui peuvent être intéressants. Et oui, de toute façon, bien sûr, ça va révolutionner beaucoup de choses et on le verra, nous, concrètement, dans les prochaines années à venir, oui.
Il y a une chose que l'on constate aussi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des ICO, des ITO, c'est-à-dire des investissements dans des entreprises en crypto-monnaie.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est sérieux ?
Alors, ça dépend à qui vous adressez.
Il y a quand même eu quelques exemples emblématiques, justement, de fraude, de grosses fraudes sur ces ICO.
Alors, il y a eu quelques exemples, effectivement. Ils ne sont pas si nombreux, mais évidemment, comme les montants sont vite très importants, les montants des fraudes le sont aussi. Il y a aussi plein de montants levés qui se déroulent sans aucun problème via les ICO. Et à nouveau... on en parle beaucoup et Mark Yusko disait à juste titre on parle d'une bulle, or ça touche encore un très petit nombre de personnes et d'activités. Enfin, on n'est pas, c'est un buzzword et tout le monde en parle, néanmoins ça ne touche que très peu de personnes directement. Donc oui, après c'est tout de suite impressionnant parce que les montants sont très importants, mais je pense que
il faut ramener ça à sa juste valeur.
C'est une technologie, enfin, si je peux me permettre, juste les débuts d'Internet étaient aussi assez chaotiques. On est sur le début d'une nouvelle technologie. Forcément, ça va prendre un peu de temps avant que avant que tout le monde y trouve son compte.
Mais on sent que les risques de dérapage sont là, hein, malgré tout. Et alors, le mois dernier, Bruno Le Maire a plaidé pour une régulation de la blockchain, précisément. Et puis, le gouvernement veut qu'on mette de l'éthique dans les fintechs, que la fintech se mette au service et du sens, au service de l'inclusion, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est très important. Et je pense que c'est un mouvement qui est général dans notre société et qui s'appliquera à la finance comme à d'autres secteurs d'activité. Mais moi, je vois dans nos actualités, dans celles qui animent le secteur, la finance verte, la finance à impact, est un sujet qui intéresse énormément, sur lequel de plus en plus de startups vont. Et même des startups des fintechs qui se lancent depuis peu incluent maintenant de l'impact vert ou de l'impact social dans leurs activités. Et c'est une grande vague aussi qui va toucher la finance, ouais, c'est sûr.
Maëlla, vous restez avec nous pour commenter éventuellement ce qu'ont dire nos autres invités. Merci beaucoup.
Nouveau Monde spécial VivaTech 2019.
Elles ont pour nom N26, Revolut, Orange Bank ou Nickel. On les appelle donc les néobanques, hein, des banques d'un nouveau genre, 100% en ligne avec juste une appli. Elles séduisent les jeunes, elles font peur parfois aux banques traditionnelles. En tout cas, elles n'auraient jamais existé sans le numérique ni les réseaux. Ces néobanques, nous en avons une avec nous, c'est la banque Nickel. Bonjour Hugues Lebret.
Bonjour.
Présentez-nous un petit peu Nickel, s'il vous plaît.
Alors Nickel, c'est une société que nous avons lancée en février 2014. Et nous avons aujourd'hui 300 collaborateurs. Nous avons 1 245 000 clients. Nous ouvrons à peu près 35 000 comptes par mois. Donc nous avons une part de marché en France sur les entrées en relations bancaires de l'ordre de 9-10%. Donc nous sommes un des premiers ouvreurs de comptes en France, devant beaucoup de banques, avec des taux de croissance qui restent de l'ordre de 75% par an. Et l'originalité, c'est que c'est un compte tout simple, que l'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste.
Ça, c'est incroyable. J'avoue que j'ai testé personnellement. Et ouvrir un compte bancaire un dimanche soir dans un bureau de tabac au fin fond d'une banlieue en 5 minutes et on repart avec sa carte bancaire, on se rend compte qu'on a basculé dans un nouveau monde.
Oui, on a utilisé beaucoup de technologies de dématérialisation. On scanne son document d'identité, son passeport. Par exemple, si on scanne le passeport, on lit la puce RFID en Wi-Fi. Et donc, c'est fiable à 100%.
Ça se fait sur une borne. Hein,
oui, ça se fait sur une borne, qui est un scan et un pad, en fait, où on met sa pièce d'identité. Et on a des systèmes d'authentification renforcés, de reconnaissance des formes. On a aussi beaucoup d'intelligence artificielle à l'entrée en relation. On est assez bon dans la lutte contre la fraude et tous ces sujets-là parce qu'on a une courbe d'expérience qui devient importante et que les algorithmes et le machine learning qu'on développe nous permettent d'avoir des scores d'anticipation et d'être très puissants. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que sans condition de revenus, sans condition de patrimoine, y compris si on est interdit bancaire, y compris si on est migrant avec un titre de séjour en cours de validité, on peut ouvrir un compte en 5 minutes, y compris si on n'a pas de smartphone, si on a un téléphone portable de base, y compris si on est hébergé chez Emmaüs ou par Samari. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dissocié... Et y compris pour les mineurs, puisqu'on ouvre les comptes à partir de 12 ans.
Voilà, alors, ce que les banques ne font pas.
Voilà, et c'est le parent qui ouvre le compte avec les deux pièces d'identité, celle du parent de l'enfant, plus le livret de famille. Le mineur n'a pas besoin d'aller chez le buraliste, même s'il peut y aller à 22h comme vous l'avez fait, parce qu'il part en Angleterre demain matin et qu'il a besoin de sa carte maintenant. Et donc, ce compte a l'originalité d'avoir dissocié les trois métiers fondamentaux de la banque. Le premier métier, c'est le métier de base, qui correspond à un besoin qui est universel, c'est payer et être payé. Or, le système est violent puisqu'on vire les gens qui sont pas solvables ou les gens qui sont suspectés de fraude. Et donc, nous, on vire pas puisque on prend tout le monde, y compris les interdits bancaires. Le deuxième métier, c'est le crédit. On n'en fait pas. Et le troisième métier, c'est les placements, c'est l'épargne, etc. Et on le fait pas. Et du coup, ça nous permet d'être tout simple parce que on n'a pas besoin d'avoir votre feuille de paie, on n'a pas besoin de vous scorer, de savoir si vous êtes solvable ou pas. Mmh. On ouvre le compte et la contrainte du compte Nickel, c'est qu'on peut pas dépenser plus que ce que l'on a. Et donc,
c'est comme
un porte-monnaie. Pas de crédit, pas de découvert.
Pas de crédit, pas de découvert.
Et du coup, c'est très, très vertueux parce que les gens ne passent jamais dans le rouge et donc ne rentrent jamais dans le découvert, ni le dépassement d'autorisation de découvert, ni les frais qui sont induits derrière.
Au tout début de Nickel, l'idée, c'était quand même de ramener et de faciliter le paiement et se faire payer, comme vous l'avez dit, des populations qui étaient
fragiles.
Et aujourd'hui, vous avez 1,2 million d'utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs aujourd'hui? Est-ce que c'est encore toujours ces populations ou est-ce que ça s'est élargi la base?
Non, alors la principale population, ce sont des employés du secteur privé et du secteur public et qui sont en activité. On a, donc ça c'est plus de 45% de nos clients, et avec une moyenne d'âge de 37 ans, mais on a 30% de chômeurs et de sans revenus réguliers. Et le reste, ce sont des professions libérales, des artisans, des commerçants à compte privé, ou alors des retraités, ou alors des étudiants. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est qu'au départ, on ciblait beaucoup plus cette dimension sociale, cet engagement très très fort sur les populations les plus fragiles. Et après, on s'est rendu compte que 40% des Français étaient en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre. Mmh. Et payaient des frais de 8 euros par opération derrière la ligne rouge. Plus les avis tiers détenteurs qui sont facturés 120 euros par les banques, plus les lettres de relance à 14 euros, plus les rejets de prélèvement à 20 euros. Donc ils avaient des frais qui étaient de l'ordre de 400 euros par an. Et en venant chez Nickel, ils ramènent l'ardoise à 40 euros par an. Donc
c'est le prix de la carte sur l'année?
C'est 20 euros le prix annuel.
D'accord.
Et donc, qui est l'abonnement avec tout ce qui est électronique. Et ensuite, il y a des commissions à l'acte si on fait des dépôts ou des retraits chez le buraliste. Voilà.
Ou oui,
Si je dépose 100 euros, ça me coûte 2 euros.
Donc l'idéal, c'est de passer par un ami qui va faire un virement ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, exactement. Moi, ma fille, quand elle fait un babysitting, elle me donne l'argent et je le mets en électronique. Mmh. Quoi. C'est-à-dire que les enfants sont complètement électroniques. Et donc, on a été surpris de voir que finalement, au lieu de rebancariser les 5 millions de personnes en grande fragilité, eh bien, on faisait faire une économie significative à potentiellement 40% de la population. C'est pour ça qu'on est le premier ouvreur de compte en France. Premier sujet. Puis deuxième sujet, il y a plein de gens qui se sont dit, c'est un compte bloqué. Et tout est en temps réel, tout est immédiat. Donc c'est génial pour payer sur Internet. Et je vais désexposer mes avoirs de la toile. Et tous mes paiements en ligne, qui sont 30% des paiements chez Nickel, ça va être avec la carte Nickel. Si j'ai 200 euros sur ce compte, si je suis victime de phishing, on peut pas me prendre 201 euros. C'est pas possible, ça passe pas.
Elle est acceptée partout, c'est une carte Visa?
Oui, c'est une Mastercard qui est acceptée dans 22 millions de points de vente dans le monde. C'est aussi répandu que Visa et c'est partout dans le monde. Ça marche dans tous les pays du monde. Après, on s'est aperçu que les gens qui partaient en voyage, justement au Brésil, en Thaïlande, prenaient la carte Nickel parce qu'il y avait beaucoup moins de frais à l'étranger. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui le donnaient à leurs enfants. Donc, on a fait valider par la CPR, la Banque de France, le fait qu'on pouvait ouvrir des comptes à partir de 12 ans. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des étrangers qui avaient leur maison de campagne en France et qui avaient besoin de ça pour domicilier leur électricité et leur gaz. Donc, il y a des tas d'usages spécifiques. Donc, pour répondre à votre question, 60% de nos clients sont représentatifs des populations les plus fragiles. Et pour eux, on est quasiment à 100% en compte principal. Donc l'originalité de Nickel par rapport à N26 ou à Boursorama, c'est qu'eux, ils ont 21% des comptes qui sont des comptes principaux et que nous, on est à 65% des comptes qui sont des comptes principaux. Et à l'inverse, on a beaucoup de comptes secondaires, de comptes tertiaires pour des gens qui l'utilisent pour des usages auxquels on n'avait pas pensé au début, mais ils trouvent que c'est très pratique d'ouvrir ce compte en 5 minutes chez un buraliste. Mmh. Ben voilà, la première fois que l'enfant prend le train pour aller voir sa grand-mère à l'autre bout de la France, ben plutôt que d'avoir un billet dans sa poche, il y a une carte dans sa poche et on a mis 5 minutes à l'ouvrir.
Hugues Lebret, il y a une question que vous avez évacuée, je trouve, un petit peu rapidement. Mmh. C'est celle de la sécurité, qui est évidemment fondamentale en matière de banque. On sait que les banques traditionnelles investissent beaucoup, sont paranoïaques par rapport à la sécurité.
C'est 15% de l'effectif dans toutes les banques, y compris chez Nickel.
Parce qu'elles sont confrontées à une imagination débordante de la part des cybercriminels qui ne cessent de...
Les nouveaux modèles attirent en premier lieu des fraudeurs. C'est-à-dire que tout le monde teste dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se lance. Et donc, il faut être très, très vigilant sur ces sujets-là.
Et alors, certaines néobanques ont eu des soucis d'ailleurs. Il y a eu des problèmes de piratage, etc. Comment est-ce qu'une start-up comme la vôtre peut faire face à cette menace gigantesque? Aussi bien qu'une grosse banque bien installée, qui a des process très compliqués, qui a beaucoup d'ingénieurs?
Alors d'abord, on est régulé par la CPR, par la Banque de France. Et quand on fait un dossier d'agrément à la Banque de France avant de lancer Nickel, entre 2012 et 2014, le dossier fait 4500 pages. Et on décrit l'ensemble des processus, et on décrit notamment les couches de sécurité. Par exemple, quand vous scannez votre document d'identité, il est authentifié de manière renforcée. Mais après, il est revu, cette image du document, par des spécialistes qui sont chez nous et qui ont comme rôle de vérifier 100% des identités. C'est croisé avec les listes WorldCheck, des 300 listes mondiales réactualisées chaque jour. C'est croisé en temps réel pour pas qu'il y ait de personnes sensibles, de terroristes, de personnes exposées, etc. Et ensuite, nous, on a une vérification physique par le buraliste. Donc la première lutte contre la fraude, c'est la connaissance du client, de l'avoir vu physiquement, d'avoir ses bons documents d'identité, d'avoir vérifié son bon portable avec un chien, etc. Le deuxième sujet, c'est de suivre les flux. Et donc, on a un profilage des clients. Il y a 17 questions à l'entrée en relation. Et donc, il y a c'est connaître au client, c'est la base. Et donc, ce qui permet de profiler les clients. Et on sait qu'un client qui gagne 2000 euros par mois, il a un comportement que nous donne la technologie, qui fait les mêmes achats dans les mêmes 14 magasins, tous les mois, au même moment, pour les mêmes montants. En gros, avec un panier moyen de 35 euros. Donc, on connaît parfaitement. Et tout ce qui est déviant, tout d'un coup, on voit un paiement de 200 euros en Allemagne, tout d'un coup, il y a des choses, se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc ça génère des alertes qui sont traitées par des services conformité, par des services clients, etc.
Le détenteur de la carte reçoit une alerte. Et...
après, sur des fraudes qui sont avérées, puisqu'il y en a, eh bien, on développe des algorithmes, on repère d'où ça vient, et après on est en prédictif. Donc on la réduit au fil du temps grâce à la technologie et grâce au machine learning. Et le dernier sujet, c'est transformer du cash en électronique, c'est ça le blanchiment, c'est transformer de l'argent sale en argent tracé et propre. Et on ne peut pas faire des dépôts de plus de 1000 euros par mois, 30 jours glissants, sur son compte nickel. Et on ne peut pas le faire de manière anonyme, puisqu'il faut mettre sa carte et faire son code quand on dépose l'argent chez le buraliste. Donc, les trois couches. Un, je connais mon client. Deux, je le suis avec les logiciels qui sont les logiciels à la place, qu'on a renforcés avec notre intelligence artificielle, plus l'accès limité au cash en dépôt, eh bien, font qu'on arrive à être assez performant et qu'on a un coût de la fraude qui est nettement inférieur à celui du secteur bancaire. Et depuis qu'on s'est rapproché de BNP Paribas, on bénéficie en plus, eux bénéficient de notre expérience avec le temps réel, et nous, on bénéficie de l'ensemble de leurs services conformité auxquels nos équipes sont hiérarchiquement rattachées aujourd'hui. Et effectivement, ça a considérablement solidifié le modèle.
Nouveau Monde, spécial Vivatech 2019, présenté par Jérôme Colombin de France Info et Guillaume Brégeras du journal Les Échos.
Alors, on parlait des modes de paiement pour les plus jeunes, carte bancaire pour les ados, mais pour les tout petits, eh bien, il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de ne plus avoir à emporter des billets, des pièces dans ses poches. Et c'est vrai que les enfants sont autonomes de plus en plus jeunes. Ils ont envie, eux aussi, d'avoir accès aux moyens de paiement électroniques, que ce soit pour payer en ligne ou pour payer dans les magasins. C'est donc l'objet de JAB, qui a été conçu par La Poste, ou en tout cas qui aujourd'hui appartient à La Poste.
En fait, on est des employés de La Poste.
Et, Maxime Perdu.
C'est ça, de Capos, pour être précis, qui est la filiale numérique du groupe. Et en fait, on l'a monté en tant que start-up interne. En fait, un été, on avait un peu moins de boulot. On travaillait dans les équipes d'innovation et design. Et on s'est dit, genre... ce serait super bien de faire un service pour les jeunes, on a envie de ça.
Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, JAB.
Bah, du coup, JAB, c'est un porte-monnaie, entre guillemets, sur lequel on va pouvoir recharger de l'argent, on va pouvoir...
Moi, je vois pas un porte-monnaie, je vois un petit requin
c'est
que
ça,
vous avez dans la
requin,
main.
C'est ça, un requin, un panda, une pastèque, ça a plein de formes différentes.
Et, en fait, la taille d'une clé USB.
Ouais, la taille que ça rentre dans la main. En fait, on a testé avec les enfants pour que ça rentre bien dans leur trousse d'école, dans leurs mains, dans les porte-clés, etc. Et en fait, les parents, ils ont une application sur laquelle ils vont pouvoir recharger instantanément à distance. Et si ma fille, elle va au foot, je sais qu'elle sort de l'école un peu tard, je vais pouvoir lui mettre 10 euros. Et à la sortie du collège, elle va pouvoir acheter son goûter. Et du coup, elle est autonome, elle pourra faire ses premiers achats, sortie ciné, toutes les petites dépenses du quotidien.
C'est un paiement sans contact?
C'est uniquement un paiement sans contact, avec on peut pas retirer d'argent liquide, on peut pas payer sur Internet. C'est uniquement sans contact, donc comme pour les cartes classiques, 30 euros max par achat. Et après, c'est un porte-monnaie, donc il est limité. On peut pas mettre plus de 250 euros dessus. L'idée, c'est vraiment de gérer les dépenses au quotidien pour que l'enfant prenne son autonomie et que les parents puissent gérer à distance comme avant. Mes parents, moi, me donnaient 20 euros pour la semaine. Et ben là, ils me mettent 20 euros sur mon JAB et puis je vais gérer mes petites dépenses au quotidien comme ça.
Si je perds le JAB, qu'est-ce qui se passe?
Alors, si je perds déjà sur l'application, tout est instantané. Donc, je le bloque de façon instantanée. Je peux pas dépenser plus que ce qu'il y a dessus. Donc c'est vraiment les parents qui vont le gérer, qui vont se dire genre bah voilà, je vais lui mettre 10 euros, 20 euros. Comme quand je lui confie un billet, c'est la même chose. S'il perd le billet de 20, bah, il a perdu 20 euros. C'est un peu le même fonctionnement quoi.
Et là vous terminez la phase de test.
On vient de lancer sur Vivatech là. Donc ouais, on a fait une phase de test depuis. Bah déjà on l'avait lancé sur Vivatech l'an dernier et on a fait une phase de bêta test sur 300 familles en France qui l'ont utilisé du coup depuis octobre.
Alors qu'est-ce que vous avez appris peut-être des choses auxquelles vous
ouais,
attendiez
bah,
pas.
Ce qui est marrant, c'est qu'on avait vraiment, nous, on l'a conçu pour les collégiens, vraiment, enfin, les 8-14 pour être précis. Et du coup, donc, ça a vraiment confirmé ce modèle-là. Il y a 70% des nos utilisateurs qui sont dans cette tranche-là et qui ont vraiment des usages, des dépenses entre 1 et 6 euros, 30% en boulangerie, 30% dans les petits supermarchés de proximité et qui vont dépenser entre midi et 2 et entre 16 et 18, donc les trucs un peu classiques qu'on avait estimés pour le goûter et pour ces achats-là, les petites sorties cinéma, les petits trucs on les voit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait 30% des cas où c'était des usages qu'on n'avait pas du tout envisagés. Donc quand on a demandé aux parents à quel âge avaient leurs enfants, à qui ils confiaient le moyen de paiement, ils nous répondaient 6 mois. On était là genre six mois, c'est bizarre. et en fait non, ils le confient à babysitter ou à jeune fille au père. Et en fait, il y a plein d'usages qui se sont créés. Et même nous, sur les gens un peu plus âgés, on les appelle nous les kids adultes. C'est des gens qui ont entre 18 et 40 ans, mais qui sont très jeunes dans leur tête et qui trouvent des moyens un peu toujours farfelus pour pour s'amuser et c'est nos plus gros utilisateurs en termes de volume de dépenses et c'est des gens qui ont entre 20 la trentaine quoi et qui utilisent en soirée et ils se limitent du coup je mets 40 euros en soirée, je dépenserai pas plus de 40 euros, je sortirai pas ma carte.
Ah oui.
Je paye avec mon requin
et ça coûte combien?
Et ça coûte 30 euros. Après, il y a les coques, les modèles, il y a les coques à 5 euros, 8 euros, etc. Et il y a un abonnement d'un euro par mois. C'est sans engagement, on résilie quand on veut. Et voilà.
Très bien, Jab. Pourquoi la Poste? Vous l'avez un petit peu expliqué au début.
Ouais, parce que du coup, c'était vraiment, nous, on travaille à la Poste, on travaille chez Doca Poste. Et du coup, on est dans les équipes innovation et design. Et je vous ai dit, il y avait la Poste qui avait sorti le service veillé sur mes parents. Ouais. Et nous, on regardait ça un petit peu de recul et on se disait, genre, nous, ça nous ferait vraiment... kiffer de faire un service veillé sur mes enfants. On a vraiment d'empathie pour les jeunes et on trouve qu'il n'y a pas tant de services, c'est ça qui se crée sur les enfants. Et puis on se disait aussi, c'est marrant, nous, nos parents nous confient de l'argent, mais on a de moins en moins de monnaie sur nous. Comment ils vont faire les prochaines générations? Et en plus de ça, on demandait aux jeunes, mais vous avez envie de payer avec une carte bleue? En dessous de 12 ans, ils nous disaient, non, c'est pas possible. Et puis même, ils trouvaient la carte bleue pas très sexy, etc. Et du coup, on a commencé à leur demander, mais avec quoi vous voulez payer? Et là, ils nous ont répondu, j'aimerais bien payer avec un ballon de basket, avec un genre, ok, d'accord.
Oui, pourquoi pas, avec pourquoi une chaussure.
et du coup, on a fait un été, on a mis des cartes dans des morceaux de bois, on les a filés à une dizaine de familles, et puis les familles ont fait genre, mais c'est une super idée. Et puis du coup, après, on a lancé les tests, et puis on a convaincu notre direction.
En fait, c'est
une
puce de carte à puce.
C'est ça, c'est une
dedans,
puce, c'est comme une puce en contact NFC, que vous avez, NFC classique, qui fonctionne à l'intérieur.
Alors, au sein d'un groupe comme ça, aussi établi que la Poste, comment ça se passe là, pour convaincre la hiérarchie? Est-ce que c'est compliqué encore? Est-ce que les process sont plus longs? Vous pensez que dans une start-up
plus long, je sais pas. En tout cas, c'est du bon sens. Tant qu'on arrive à montrer les résultats très vite et qu'on arrive à embarquer les patrons, ils sont à l'écoute, ils sont intelligents et justement, ils nous, au contraire, ils nous poussent et nous permettent d'avoir des moyens qui nous permettent d'aller plus vite. En l'occurrence, quand on avait fait notre test, là, un peu pirate, entre guillemets, on avait mis des cartes dans des morceaux de bois et nous, on envoyait des SMS aux parents avec notre propre téléphone. Et du coup, quand on leur a montré ça, ils nous ont fait genre, c'est pas con et il y a le CES qui arrive dans 4-5 mois, on n'a pas trop de nouvelles innovations à présenter, ça vous dirait pas de présenter le concept? Et en fait pour nous ça a été un accélérateur parce que du coup on allait au CES, en 3 mois on a dû présenter le concept, c'était challengeant quoi, on a été très rapide et puis sur le CES on a eu plein de grandes marques, des par attraction, des grandes chaînes qui étaient super intéressées par le produit, donc les patrons aussi ont vu ça et du coup ça les a embarqués, ils se sont dit genre il y a quelque chose derrière et puis après ils nous ont fait confiance et puis ils nous ont coachés et puis ils nous aident à...
Et ça vous donne pas envie de monter votre startup maintenant?
Si, moi je l'avais fait un petit peu avant et puis là c'est un peu la même chose au final, on est vraiment en train de monter une startup, d'ailleurs nos patrons sont aussi dans cette mentalité là aussi, on le conçoit comme ça quoi.
Nouveau monde spécial VivaTech 2019.
Impossible de parler de fintech, des technologies au service de la finance, sans parler de crypto-monnaie. On pense bien sûr au Bitcoin. Et on en parle avec une pépite française, c'est la société Ledger, qui a mis au point un coffre-fort à crypto-monnaie. Bonjour Éric Larchevêque.
Bonjour.
Vous êtes le CEO, fondateur de Ledger. Qu'est-ce que c'est qu'un coffre-fort à crypto-monnaie?
Alors avant de parler coffre-fort, il faut comprendre pourquoi on a besoin d'un coffre-fort, surtout pour une monnaie dite virtuelle. En fait, quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une information, on appelle ça une clé privée, mais c'est comme un bon porteur. C'est une information numérique qu'on a besoin de sécuriser. Mmh. Quiconque a accès à cette information a accès aux actifs qui lui sont associés. Si par contre, vous gardez cette information sur votre ordinateur, c'est comme si vous achetiez de l'or physique et que vous le laissiez sur votre cheminée. Oui, ça ne va pas fonctionner très longtemps c'est pas recommandé parce qu'un ordinateur, c'est pas sécurisé, il y a des virus, etc. Donc, ce que Ledger...
D'ailleurs, il y a déjà eu des pertes.
Enfin,
il y a
évidemment, des pertes de personnes
des
qui se font voler.
Des détenteurs de crypto-monnaies qui ont perdu des fortunes.
Exactement, parce que les hackers, en fait, les pirates, vont privilégier d'extraire ces données bien particulières qu'ils arrivent à reconnaître. Et donc, il faut les stocker dans un environnement sécurisé, isolé. Ledger, d'un point de vue technologique, hérite de 40 ans de recherche et développement dans la carte à puce. Donc, ce coffre-fort digital, c'est un élément sécurisé qui va venir garantir l'isolation de ces clés privées, de ces bons porteurs, et assurer que même dans le cas où l'ordinateur de l'utilisateur est compromis, eh bien, les bitcoins ne peuvent pas être volés. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des coffres et que toute personne qui possède des crypto-monnaies avec un montant un petit peu sérieux va s'acheter un coffre-fort.
Donc ça se présente comment? C'est comme une clé USB?
Ça ressemble un peu de loin à une clé USB, sauf que c'est pas juste un disque dur, il y a un ordinateur sécurisé qui va venir gérer ces bons porteurs, ces clés privées, et assurer leur utilisation dans un environnement complètement maîtrisé et sécurisé. Il y a un écran, des boutons, on peut valider ce que l'on signe, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer ces crypto-monnaies en toute sécurité.
Et évidemment, ce coffre-fort, ensuite, il faut le mettre dans un vrai coffre-fort, j'imagine?
Alors pas forcément, il y a un code PIN qui fait que même si on le perd dans la rue, on doit quand même le sécuriser, un peu comme une carte de crédit. Sur mes trois mauvais codes PIN, il va s'effacer. Donc, il n'est pas nécessaire de le mettre dans un vrai coffre-fort physique, sauf si vous pensez que quelqu'un va venir avec peut-être un fusil vous extorquer le code PIN. Mais ça, voilà, après, on est plus face à des pirates informatiques. C'est un autre type de danger.
Alors, c'est un succès, hein, ce coffre-fort à crypto-monnaie. 1,5 million d'exemplaires dans le monde pour la première version. La deuxième version vient d'être lancée, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le Nano X, donc le premier s'appelait le Nano S. Cette nouvelle version permet le fonctionnement en mobilité, c'est-à-dire qu'il y a une connexion Bluetooth au lieu de uniquement la connexion USB. Ce qui veut dire que on peut maintenant utiliser ces crypto-monnaies en mobilité avec son portable, son smartphone, alors qu'avant, il fallait quand même poser, sortir de son sac à dos un laptop, ce qui n'était pas extrêmement pratique pour avoir un usage un peu flexible.
Alors je le disais, vous êtes une pépite française, c'est-à-dire une start-up qui réussit, qui a vraiment le vent en poupe. Vous avez fait trois levées de fonds, ça se passe plutôt bien pour vous. En tout cas, ça se passait très bien ces derniers temps, mais on sait malgré tout que le marché de la crypto-monnaie connaît quelques soubresauts, hein.
Bien sûr, il a en 2017 connu une croissance énorme, peut-être assez extraordinaire, qui a surpris tout le monde, à nous les premiers, on pensait pas que ça irait aussi vite. Et en 2018, les marchés ont quand même eu une correction sévère, perdant 85% de leur valeur.
Et pourquoi? Une perte de confiance subite?
Oui, le Bitcoin était passé de moins de 1000 euros, enfin moins de 1000 dollars à 20 000 dollars. Et à un moment, en fait, d'un point de vue technologique, on s'est rendu compte que la blockchain, donc la technologie de base, était pas suffisamment solide, enfin n'arrivait pas à scaler avec le nombre d'utilisateurs. Il y avait un problème en fait de croissance, de dimensionnement, et donc qui a créé une petite perte de confiance. Donc il y a aussi eu beaucoup de spéculation. Donc il y a pas mal de raisons en fait à un petit peu ce retournement, mais on s'est aperçu que c'était peut-être pas encore prêt pour pouvoir gérer toutes les transactions du monde entier. Et donc il y a eu une baisse du prix. Sur l'année 2018, on est passé de 20 000 à 3 000 dollars. Aujourd'hui, on est aux alentours de 5 000 dollars. Donc il y a des variations, et forcément quand on a une entreprise dont les ventes sont un petit peu liées au cours et à l'intérêt qu'on peut avoir sur les crypto-monnaies, eh bien ça fait des variations. C'est pour ça que Ledger a aussi s'est aussi repositionné sur des marchés entreprises, où on va proposer des coffres, mais là pour des institutions financières, et qui vont avoir en fait des revenus moins liés aux variations du prix du Bitcoin.
D'accord. Ce qui du coup vous ces soubresauts vous obligent à quelques ajustements, hein.
Oui, tout à fait. Une entreprise en fait qui a une croissance énorme ne se gère pas de la même façon qu'une entreprise qui doit gérer finalement un marché qui est en décroissance ou qui va avoir un petit trou d'air pendant 12 à 18 mois. Et donc ça veut dire des réorganisations, ça veut dire que si avant ce qui était important c'était de construire des fonctions support de premier plan pour vraiment mettre au carré l'entreprise, pour gérer toutes les problématiques financières, import, export, qui sont liées à le fait de vendre 1,5 million d'unités dans 165 pays, ça crée plein de problèmes. Mais une fois que tous ces problèmes sont résolus, eh bien il faut s'atteler à livrer les produits, les livrer encore plus vite, encore mieux pour répondre aux besoins des clients. Et donc, il faut un petit peu réorganiser et se focaliser plutôt sur créer des postes en ingénierie qu'on va aller financer en faisant des réductions d'effectifs sur tout ce qui sont les fonctions support qui ne sont plus aujourd'hui la priorité de l'entreprise.
On rappelle que Ledger, c'est une aventure française également, hein. Vous êtes une entreprise fortement ancrée dans les territoires. Vous êtes en Sologne, c'est ça?
Oui, tout à fait. À Vierzon, on a investi 8 millions d'euros dans un outil de production et logistique. On a fait le pari de pouvoir rapatrier toute notre production en France. Avant, c'était fait en Chine. Enfin, au début, c'était fait en France, à Vierzon, et après qu'on est passé à des millions d'unités, on allait en Chine. Et donc, on a pris la décision de revenir à Vierzon, et c'est aujourd'hui à Vierzon que tous les produits de Ledger sont fabriqués.
Alors, malgré tout, Éric Larchevêque, le Bitcoin, même s'il vient de Vierzon et qu'il est estampillé fruit du terroir, produit du terroir, on peut pas s'empêcher d'y voir aussi un petit côté sulfureux. Quel est l'avenir du Bitcoin?
Alors l'avenir du Bitcoin, le Bitcoin a démontré...
Ou des crypto-monnaies d'une manière générale.
Depuis 10 ans, ils ont démontré en fait leur résilience. Hein, on a annoncé la mort du Bitcoin des centaines de fois, il est toujours là. Et aujourd'hui, on voit aussi que la position plus générale sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain...
Il y a beaucoup de monde qui dit que c'est pas sérieux cette histoire-là.
Je pense qu'il y en a de moins en moins, parce que si c'est un discours en tout cas qu'on entend de moins en moins. Et on voit aussi les pouvoirs publics, le gouvernement français, qui prend des positions assez fortes sur la nation blockchain, hein, entre guillemets. guillemets, pour prendre un raccourci, où il est nécessaire de pouvoir faire les bons investissements, les bons positionnements technologiques pour pouvoir être prêt lorsque la technologie blockchain, qui aujourd'hui permet l'avènement de crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin, va aussi permettre ce qu'on appelle la tokenisation, une sorte de titrisation d'un certain nombre d'actifs financiers, de pouvoir les échanger sur la blockchain, de pouvoir un jour, pourquoi pas, émettre des titres d'entreprise sur une blockchain, se les échanger en pair à pair, et donc d'avoir une flexibilité extrêmement importante dans la construction de ces outils financiers. La blockchain et la démonstration de la réussite du Bitcoin va pouvoir apporter finalement une sorte de révolution technologique à ce niveau-là qui va impacter véritablement tout le monde. Ça va mettre quelques années, mais l'avenir de ces technologies...
Les crypto-monnaies vont remplacer les monnaies traditionnelles, selon vous ?
On peut un jour imaginer avoir des crypto-monnaies basées sur l'euro, indexées sur l'euro. Donc, c'est pas forcément, le Bitcoin va pas forcément être la monnaie mondiale, ça j'y crois pas trop, c'est pas l'objectif. Par contre, on peut imaginer avoir une crypto-monnaie qui va, donc des tokens qui représentent de l'euro ou des dollars, qui vont pouvoir s'échanger directement sur le protocole Internet. Donc, c'est là un petit peu la révolution, c'est que, en termes de back-office, de fonctionnement technologique, on a la possibilité de faire des paiements de manière native, de faire des contrats intelligents de manière native directement sur le protocole Internet. Et donc, le champ des possibles est absolument fabuleux.
Alors, on sait que Facebook a des projets, le projet de créer sa propre crypto-monnaie. Est-ce que la bataille entre les GAFA et l'Europe va passer également par ce biais-là ?
C'est possible. Il y a des problématiques de compétitivité internationale extrêmement fortes. Et c'est pour ça que la France et l'Europe fait extrêmement attention dans la mise en place des régulations autour de la blockchain pour éviter de tuer l'innovation. Parce que si on sait qu'on a perdu la bataille de l'Internet, l'Europe ne veut certainement pas perdre celle de la blockchain. Et si une entreprise comme Facebook, qui est dans le monde entier, utilise de la crypto-monnaie pour pouvoir gérer ses paiements entre personnes d'une frontière à l'autre, c'est parce qu'ils y voient un véritable avantage d'avoir une technologie unifiée, globale, directement native sur Internet. Et la France, l'Europe, a certainement un rôle à jouer. Et on espère bien que Ledger, en tant que fournisseur de technologies de sécurité, d'infrastructures pour toutes ces applications dans le monde entier, eh bien, représentera un des fleurons technologiques au niveau européen.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'une compagnie comme Facebook veuille créer sa propre monnaie, ou au contraire, vous pensez-vous que ça va dynamiser le concept même de crypto-monnaie ?
Je pense que ça va le dynamiser. Elle va plutôt créer ce qu'on appelle un stablecoin, à savoir une crypto-monnaie qui va être adossée à une monnaie d'État. Donc ça va pas être une monnaie type Bitcoin avec un cours flottant, ça va être une monnaie type dollar, euro, qui va être tokenisée. Et donc ça va démontrer en fait la puissance de cette technologie, et ça va plutôt inciter les différentes startups, les différents aussi les États de vraiment s'intéresser d'encore plus près à la blockchain, parce que là on va voir la capacité, la démonstration de ce que cette technologie va pouvoir faire pour une entreprise aussi grande que Facebook.
Merci Eric Larchevêque, CEO de Ledger. Combien coûte votre coffre-fort, votre porte-monnaie ?
119 euros TTC.
Et on peut stocker autant de Bitcoin
autant de crypto-monnaies que l'on veut. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est compatible avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies.
Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce podcast, et c'est également la fin de cette série de podcasts exceptionnels, des podcasts originaux disponibles uniquement sur support numérique. Merci de l'avoir suivi tout au long de ces dernières semaines. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible aussi, ici en interne à Radio France. Vincent Giray, Marie Lutkus, Mathieu Boval, Thomas Biaschi, Dylan Ménère, et puis bien sûr toute l'équipe technique de Radio France. Si vous êtes à Vivatech ce week-end, et bien surtout profitez-en bien. Vous pouvez également réécouter les autres épisodes de ce podcast avec tous nos invités qui portent haut et fort les couleurs de la tech française. Podcast à découvrir également sur le site des Échos. Merci Guillaume Brejeras d'avoir animé avec moi cette série d'émissions.
Merci Jérôme, c'était un vrai plaisir.
Portez-vous bien, à très vite.